إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد أيها المسلمون في هذا الأسبوع أخذ التلاميذ والطلبة طريقهم إلى مدارسهم وجامعاتهم بحقائبهم فزودوها بالدفاتير والكراريس والأقلام ولا شك أن الإسلام يهتم اهتماما واسعا وبالغا بكسب ونيل العلوم النافعة والعلم نوعان العلم الديني الشرعي والعلم الدنيوي المادي أما العلم الديني فهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا العلم لا بد منه هذا العلم الديني لا بد من نصيب منه لكل مسلم لأن الله لا يعبد بجهل فالمصلي لا يصلي حتى يعلم كيفية الصلاة وأحكامها وشروطها ونواقضها والصائم لا يصوم حتى يعلم ماهية الصيام وأحكامه وشروطه ونواقضه والحج والزكاة كذلك وكل العبادات وهذا لا يمنع المسلم طبعا من طلب علم دنيوي إن كان نافعا فلهذا ترى موسى عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل وهو كليم الله تعالى حرص على مرافقة الخضر ليتعلم منه ما لم يكن يعلمه فقال الله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فتواضع نبي الله موسى أمام الخضر وطلب منه تعليم ما علم فإن المسلم عليه أن يتعلم من العلوم ما ينبغي تعليمه حتى لا يعتمد على غيره أو بالأحرى حتى لا يعتمد على غير المسلم فيما يحتاجه وفيما ينفعه وهكذا كان دأب الأنبياء والصالحين كانوا يحرصون على أن يتعلموا أو أن يتعلم كل منهم نصيبا من العلوم حتى لا يعتمد المسلمون على غيرهم فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود أي أن أتعلم قراءة وكتابة اللغة التي كان يستعملها اليهود قال إني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله ما آمنوا يهود على كتاب قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه فما مر بنصف شهر حتى تعلمته له. قال فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت أنا إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت أنا له كتابه. هذا الأثر يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ألا يعتمد على غير المسلم، على غير صحابته، لقراءة الرسائل التي كانت تصل إليه من يهود أو من غيرهم. وكان إذا أرسل الكتب والرسائل إليهم كان يريد أن يعتمد على مسلم ذي ثقة كزيد بن ثابت رضي الله عنه. والأمر الثاني أن هذا الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه لما نصحه ووجهه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم هذه القراءة والكتابة سارع في تعليمها بدرجة أنه نال المقصود في مدة نصف شهر. نعم أيها الإخوة، أما اليوم فلننظر إلى حالنا. أصبح المسلمون يعتمدون على غيرهم في كل شيء، في كل شيء، في الزراعة، في النجارة، في الخياطة وغيرها، بينما كان العالم كله قبل قرون كان العالم كله يعتمد على علماء الإسلام ومثقفي المسلمين في العلوم وفي كل العلوم، سواء كان ذلك في الصناعة والزراعة والتجارة، في الطب وحتى في الفلسفة، في الرياضيات وغيرها. إن تاريخ الإسلام أيها الإخوة مليء بأثار عباقرة أخرجوا الغرب من ظلمات الجهل إلى أنوار العلوم والمعارف في القرون الوسطى، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. ابن سينا مثلا المعروف هنا في فرنسا بأفيسان، الطبيب الفيلسوف والفقيه، كان متخصصا في كل العلوم سواء كانت العلوم الدينية أو الدنيوية، كان طبيبا فقيها فيلسوفا، وألف أكثر من 200 كتاب في الطب والفلسفة، حتى سماه الغربيون أمير الأطباء، فضلا عن كيف سماه المسلمون، سماه الغربيون أمير الأطباء. وكانت كتبه مراجع في الطب في العالم كله حتى القرن 17 ميلادي، يعني من القرن 11 إلى القرن 17 ميلادي كانت كتبه المراجع الأساسية والوحيدة في الطب في العالم كله. أبو بكر الرازي وهو أول من ابتكر الخيوط الجراحية، وله مؤلفات في الصيدلة، وساهمت بحوثه في تقدم وصنع العقاقير فيما بعد. وجابر بن حيان الملقب بأبي الكيمياء يعد أول من استخدم علم الكيمياء عمليا في التاريخ. وهل سمعتم بالخوارزمي مؤسس علم الجبر في القرن 9 ميلادي، وساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات؟ وهل سمعتم عن الحسن بن هيثم الذي عاش في القرن 11 ميلادي وهو مؤسس علم الضوء، فصحح المفاهيم السائدة آنذاك فأثبت أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين وليس العكس كما كان معتقدا في تلك الفترة؟ وهو أول من شرح العين تشريحا كاملا ووضح وظائف أعضائها، فلولا اختراعاته ما عرفنا اليوم المصورات وللكاميرات. وهل سمعتم عن عباس بن فرناس الأندلسي الذي صنع ساعة مائية وصنع أول قلم حبر في التاريخ. وأما أعظم إنجازاته المنسية أنه اخترع جناحين طار بهما في سماء قرطبة لمدة أكثر من نصف ساعة. أيها الإخوة، هؤلاء فقط بعض أولئكم العباقرة الزاهدين والعمالقة العابدين الذين عرفوا بفقههم في الدين من جهة، وعرفوا كذلك بأنهم أناروا العالم في كل العلوم والمعارف. فيا شباب الإسلام، جدوا واجتهدوا في دراستكم، لا تملوا ولا تنكسروا حتى تصلوا إلى أهدافكم وغاياتكم. ويا أيها الآباء والأمهات، اعتنوا بأولادكم وبناتكم، علموهم مبادئ الإسلام، ولا تتركوا تربية أولادكم للمدرسة وحدها. فالمدرسة قد تثقفهم من جهة، لكن من جهة أخرى تتركهم يصاحبون من شاءوا ويرافقون من أحبوا ويتعاطون لما أرادوا. فراقبوا أولادكم، راقبوهم، راقبوا من يرافقون، وسلوهم عن المدرسة وعن المواد التي يدرسونها وعن واجباتهم وعن النقاشات التي تدور بينهم وبين معلميهم، حتى نحافظ على أفكارهم وعلى تربيتهم، وتكون تربيتهم تربية حسنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تربيتهم وعلى إصلاحهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفر الله من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، mes frères, mes sœurs, cette semaine, c'est la semaine de la rentrée des classes. Nous avons connu cette semaine la rentrée des classes. En cette semaine, en ce jour de rentrée cette semaine, les enfants, nos enfants, ont repris le chemin de l'école. Ils se sont armés de leur fourniture scolaire, de leurs stylos, de leur matériel, de leurs sacs, de leurs cahiers, de leurs livres, et ils ont repris le chemin de l'école. Il ne fait aucun doute, mes frères et sœurs, que l'islam porte un intérêt capital à l'enseignement et à l'éducation des enfants et au fait d'acquérir les connaissances. Il faut savoir tout d'abord qu'il y a deux types de connaissances à acquérir. Il y a les connaissances religieuses et il y a les connaissances mondaines, les connaissances de la vie d'ici-bas. Tout d'abord, les connaissances religieuses, il est du devoir et de l'obligation de chaque musulman d'avoir au moins une petite partie de ses connaissances religieuses. Le musulman n'a pas le choix. Pourquoi ? Tout simplement parce que le musulman ne peut adorer Allah en étant ignorant. Il a besoin d'un minimum de connaissances. Par exemple, s'il veut prier, et la prière est une obligation, eh bien pour s'acquérir et pratiquer cette obligation, il doit connaître la prière. Il doit savoir comment prier, quels sont les gestes, quelles sont les paroles à dire. Et donc ce sont des choses qu'il apprend avant de pouvoir mettre en pratique la prière. Pour le jeûne, c'est la même chose. La pratique du jeûne, la pratique du pèlerinage, la pratique de la zakat, etc. Il pose des questions ou il prend des cours pour pouvoir mettre en application ses obligations. Et donc c'est une partie de la science religieuse qui est une obligation pour chaque musulman. Et ceci ne doit évidemment pas l'empêcher d'apprendre et d'acquérir des connaissances de la vie d'ici-bas et des connaissances de la vie mondaine. Cela ne doit pas l'empêcher d'acquérir des connaissances de la vie mondaine. Prenons comme exemple un seul prophète, et pourtant on pourrait tous les citer. Le prophète Moussa alayhi salam, qui était un des meilleurs prophètes. Il faisait partie des cinq prophètes qu'on appelle Ulul Azmi min ar-Rusul, des plus importants. Et il a même eu l'honneur qu'Allah Azza wa Jal lui parle directement sans aucun intermédiaire. Et pourtant, Il était plein d'humilité et de modestie et il est parti à la rencontre et à la recherche d'un homme dénommé Al-Khidr parce qu'il savait que cet homme avait certaines connaissances que lui n'avait pas, alors qu'il était prophète. Et il ne s'est pas dit « Je suis prophète, Allah me parle directement sans intermédiaire. » Même à d'autres prophètes, il ne leur parle pas sans intermédiaire. Ça me suffit. Non. Cet homme a des connaissances que je n'ai pas, alors il est parti à sa recherche. Jusqu'à le trouver et à l'implorer de l'accepter en tant qu'élève. Il l'a imploré de l'accepter en tant qu'élève, alors qu'il est prophète. Cela nous montre l'importance que les prophètes donnaient à l'acquisition de la connaissance et à la lutte contre l'ignorance. Nos prédécesseurs pieux, que ce soit les prophètes, les compagnons ou ceux qui sont arrivés après eux, avaient l'habitude de faire en sorte que dans la nation musulmane, dans la communauté musulmane, il y ait toutes les compétences, afin que les musulmans n'aient pas à se reposer, surtout en temps de crise. Ce n'est pas une interdiction de s'entraider, même avec les non-musulmans, quand on a besoin de quelque chose, ou de demander à un salarié non musulman de faire quelque chose. Évidemment, nous vivons avec les autres, nous vivons avec eux, nous vivons parmi eux. Mais il se peut qu'un jour, il y ait un temps de crise où les gens refusent de vous rendre service. Et donc, si les musulmans sont obligés de se reposer sur les autres, pendant les temps de crise, ils n'auront aucune solution. Et les musulmans avaient toujours l'habitude de faire en sorte que dans leur communauté, il y ait toutes les compétences pour ne pas être sans rien pendant les temps de crise. À un tel point, c'était tellement important, à un tel point que pendant le Moyen-Âge, le monde entier se basait sur les savants musulmans et sur les connaissances des savants musulmans pour ce qu'ils avaient besoin dans la vie d'ici-bas, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans les mathématiques et même dans des sciences qu'aujourd'hui certains musulmans combattent, alors que ce sont les musulmans qui les ont fait avancer, comme la philosophie. Les philosophes européens, au Moyen-Âge, se basaient sur les traductions des ouvrages grecs qui avaient été faits par les savants arabes, avec leur analyse. Cela nous montre l'importance des sciences et de toutes les sciences dans l'islam et pour les musulmans. Et nous pourrions donner énormément d'exemples, nous allons nous contenter de quelques exemples. On peut citer ici Ibn Sina, qui est surnommé par les Occidentaux comme si ils ne veulent pas que son nom soit arabisé pour faire oublier ses racines, pour faire oublier qu'il a un nom arabe et qu'il était musulman. Il est surnommé Avicenne, alors que son nom c'est Ibn Sina. Il était à la fois faqih, c'est-à-dire un savant dans l'islam, dans les sciences religieuses, mais en même temps, il était un médecin, un grand médecin. Et il était aussi en même temps philosophe. Il était spécialisé dans toutes ces sciences. Et il a écrit plus de 200 ouvrages juste dans la médecine. Et ces ouvrages ont été la référence dans l'Occident pour la médecine. Ils ont été la seule référence, ces ouvrages, dans la médecine, du 11e au 17e siècle. Du 11e au 17e siècle, tous les médecins se basaient uniquement sur les ouvrages d'Ibn Sina. On peut citer Abu Bakr Razi, qui était surnommé encore une fois par les Occidentaux qui avaient cette manie de donner d'autres noms aux savants musulmans. Il était surnommé Razès, et c'est Abu Bakr Razi. Pendant le 10e siècle du calendrier grégorien, il était le premier à avoir repensé l'organisation de là où on accueille les malades, c'est-à-dire la création des hôpitaux, et à faire des hôpitaux un endroit où à la fois on soigne les gens et on forme les futurs médecins. Ce qu'on appelle aujourd'hui en France les CHR. Ce sont des hôpitaux où il y a des médecins et des malades qu'on soigne, et en même temps les futurs médecins, les étudiants en médecine, on les ramène dans ces hôpitaux-là pour les former. Cette idée est venue de qui ? Elle est venue de Abu Bakr Razi. Il a dit qu'il faut absolument que les médecins soient dans les hôpitaux, les futurs médecins soient dans les hôpitaux, pour comprendre tout de suite à quoi ils auront affaire, pour se former tout de suite. Pas ils sont dans les cahiers et du jour au lendemain on leur donne des patients à soigner. Et on pourrait citer d'autres exemples de ce qu'a fait Abu Bakr Razi, mais on va s'arrêter là. Jabir ibn Hayyan, qui était surnommé par les Occidentaux Jaber. Il a, au 8e siècle de l'Égypte, été surnommé le père de la chimie, parce qu'avant, la matière de la chimie, une matière de la chimie qu'on étudie aujourd'hui dans les lycées, dans les facultés, n'existait pas. C'était ce qu'on appelait l'alchimie. Et l'alchimie, c'était des choses comme finalement des recettes magiques. Les gens n'y croyaient pas parce que c'était comment faire pour prendre une pierre et la transformer en or. Donc c'était juste des légendes. Et lui, il a transformé l'alchimie en chimie, quelque chose de vrai, quelque chose de faisable. Et ça a été lui donc le premier à avoir mis en place cette matière qui est aujourd'hui étudiée dans les lycées, les facultés. On pourrait citer également Hassan ibn Haytham qui était surnommé Al-Hazen au XIe siècle de l'Égypte, qui était un spécialiste de la pharmaceutique et de l'optique. Ou on peut citer également Abbas ibn Firnas, un Andalou berbère qui était surnommé par les Occidentaux Armand Firman. Le nom est totalement tordu pour faire oublier encore une fois ses racines. Abbas ibn Firnas est surnommé par eux Armand Firman. Il a été un grand chercheur et il a mis en place de nombreuses inventions. Il a été par exemple le premier, les gens écrivaient encore avec des plumes. Lui, il a été le premier à faire en sorte que dans une plume ou dans un stylo, dans un crayon en bois, il y ait dedans de l'encre sans qu'on ait à chaque fois à prendre de l'encre et écrire. Abbas ibn Firnas, en plus d'être un inventeur, il a été le premier à avoir volé dans les airs. Il a essayé de fabriquer, il a étudié les oiseaux pour voir comment fonctionnaient leurs ailes et il a essayé de fabriquer des genres d'ailes. Et il a réussi à voler pendant une demi-heure dans le ciel de Cordoue à l'époque lorsque Cordoue était musulmane. Et on pourrait citer énormément d'autres exemples, il faudrait plusieurs prêches. Mais tout ceci simplement pour dire que ces simples exemples doivent nous montrer comment les musulmans apportaient un grand intérêt à toutes les sciences et faisaient en sorte que dans leur communauté il y ait toutes les compétences nécessaires et qu'ils soient eux les références pour toutes ces compétences. Et aujourd'hui, nous avons malheureusement perdu cette gloire. Parce que nous ne donnons plus d'importance à l'enseignement, à l'éducation. Alors vous, jeunes de l'islam, ne lâchez rien. Ne lâchez pas vos études. Allez jusqu'au bout. Quels que soient vos objectifs, le métier que vous voulez faire, allez jusqu'au bout de vos études. Et quant à vous, parents, ne jetez pas vos enfants à l'école en considérant que l'école fera tout. L'école leur donnera certaines connaissances, sans aucun doute. Mais tout le reste, c'est un océan. C'est à vous, les parents, de le faire. Que ce soit dans leur éducation spirituelle et religieuse, que ce soit dans les idées, dans les principes, dans les valeurs. Et pour ce faire, il faut que vous vous intéressiez à vos enfants, aux matières qu'ils étudient, quels profs ils ont, qu'est-ce qui s'est passé dans le cours. Est-ce qu'il y a des débats entre toi, mon enfant, et tes professeurs? De quoi vous parlez? Quels sont les arguments de part et d'autre? C'est ainsi que tu t'intéresses à ton enfant, à ses devoirs, à ce qu'il doit faire, à ses projets, etc., etc. Nous devons être observateurs de nos enfants, ne pas les laisser ainsi fréquenter qui ils veulent, comme ils veulent, les orienter pour qu'ils... C'est pas juste leur donner des obligations et des interdictions, mais les aider à faire le bon choix dans leur vie, le bon choix du métier, le bon choix des études, le bon choix des amis, le bon choix des endroits qu'ils fréquentent, etc., etc. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أولادنا وشبابنا اللهم اهدهم واهد بهم واجعلهم سببا لمن اهتدى اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا اللهم اجعلهن متسترات متحجبات مصليات صائمات عفيفات قائمات قانتات يا رب العالمين اللهم أصلح الآباء والأمهات اللهم أصلح الآباء والأمهات اللهم أصلح الآباء والأمهات اللهم أعنا على تربية أولادنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين اللهم فرج عن هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين ونفس كرب المكروبين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة